Aujourd'hui, nous allons parler géologie en ce qui concerne notre région, les Hautes-Alpes. Depuis la fin des années 1980, le Centre Briançonnais de géologie alpine, association loi 1901, œuvre à la diffusion des connaissances autour des richesses géologiques du pays du Grand Briançonnais. Les roches ont enregistré l'histoire de notre planète, des écrins au Kera. Elles nous racontent celle des Alpes et de son océan aujourd'hui disparu, un vrai voyage à remonter le temps. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Raymond Sirio, qui est président du Centre Briançonnais de géologie alpine. Bonjour Raymond.
Bonjour.
Alors Raymond, quelle est l'histoire géologique de notre région ?
L'histoire géologique de la région, pour arriver à partir d'un point de départ qui peut être assez étonnant, on va partir d'un océan, d'un fond océanique fossile. Ouais. Et ce fond océanique fossile se trouve entre Montgenèvre et Servières, et c'est le massif du Chenaillet. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'on puisse trouver sur le continent européen, quand on regarde depuis l'Izoard vers le nord, on voit le massif du Chenaillet, et on voit qu'il repose sur des roches claires, qui sont des roches du continent européen. Or, les roches du Chenaillet sont des roches océaniques. Océaniques au sens que ce sont les roches des fonds océaniques. Alors, d'un fond océanique fossile, mais qui ressemble exactement à ce que l'on pourrait trouver dans les océans actuels. Donc, on peut s'étonner de la présence d'un fond océanique qui devrait être là sous 3000 mètres d'eau et qui se retrouve à plus de 2000 mètres d'altitude sur le continent.
Et ça date, on parle de quelle date là ?
Alors, le fond océanique, tel que les géologues peuvent l'imaginer, le reconstituer, est né aux alentours de 170 millions d'années. Il s'est développé, l'océan a grandi, comme grandissent aujourd'hui les océans du type de l'océan Atlantique.
Qui continue ici, de on était que l'océan, en fait.
Ici, il y avait ouais. L'océan.
Okay. Hein,
et cet océan a fonctionné pendant quelques dizaines de millions d'années. Il a grandi, entre 170 et 100 millions d'années. Il a grandi de manière assez lente. Comme toute chose, il s'est préparé longuement, pendant 100 millions d'années, il s'est préparé, il a incubé, il était en gestation, puis il est né, et puis il n'a pas grandi très très vite, contrairement à certains océans comme le Pacifique qui
Et c'est un océan qu'on connaît maintenant ?
Ah oui, tout à fait.
C'est lesquels ?
Ben, les océans ont été explorés à la faveur de la guerre de 39-45, avec les problèmes de sous-marins, etc. Et il y avait un capitaine de sous-marin qui était géologue et qui a fait des mesures comme ça, bien qu'il soit un guerrier, c'était un Américain, Harry S. Et donc, il a fait un certain nombre de remarques et petit à petit, les géologues se sont rendus compte que la clé du fonctionnement de la planète était au fond des océans. Parce que les océans sont tous jeunes, ils ont moins de 220 millions d'années. Les continents, ils ont 4 milliards d'années pour les plus anciens. Donc on a affaire à des objets qui ont servi de point d'ancrage pour la théorie des plaques qui se déplacent. Donc quand vous trouvez un océan dans les Alpes entre 170 et 100 millions d'années, cet océan petit a disparu entre 100 et 60 millions d'années. Il est mort, il a été englouti dans les profondeurs du manteau terrestre. Et en lieu et place de cet océan, puisque les continents... S'il s'est englouti l'océan, c'est que les continents qui le bordaient, Europe et Afrique, se sont rapprochés l'un de l'autre. Il a été englouti parce que les matériaux océaniques sont plus denses que les matériaux continentaux. Et à un moment donné, les deux continents se sont affrontés. Alors, contrairement à ce que l'on peut imaginer, l'affrontement, ce n'est pas une collision de deux véhicules qui, comme on dit à Marseille, s'esquichent l'un l'autre pour faire un accordéon. Ce n'est pas du tout le cas. L'océan, généralement, quand il plonge le fond océanique, il va plonger sous l'un des deux continents. Il peut passer sous l'Europe, il peut passer sous l'Afrique. Là, il est passé globalement sous l'Afrique. Et donc, en passant sous l'Afrique, on a eu l'Afrique qui est passée par-dessus. Et on a un épaississement généralisé de la croûte continentale, ce qui fait les reliefs.
D'accord.
Et les Alpes sont nées, sont les filles d'un océan.
D'accord, parce que moi j'ai une question, j'habite à Serre-Chevalier et il y a une montagne juste en face de moi et quelqu'un me dit que ça, c'est de l'Afrique. C'est possible ça ?
À Serre-Chevalier, non, on ne peut pas dire que ce soit l'Afrique. L'Afrique, okay. Certes, est probablement passée par-dessus. Hein, En tout cas, c'est l'Europe qui est passée dessous, donc en valeur relative, l'Afrique est passée par-dessus. Mais on en a des témoignages, surtout dans les Alpes centrales et dans les Alpes septentrionales. Dans les Alpes occidentales franco-italiennes, on n'a pas de témoignages forts. On a des sédiments qui contiennent probablement des débris de l'ancienne Afrique,
d'accord,
mais
okay.
pas plus. C'est déjà bien d'imaginer que les Alpes proviennent d'une collision ou d'une superposition de l'Afrique ouais. sur l'Europe.
Ouais,
c'est déjà quand même quelque
ouais,
chose.
Là, on voilà. comprend.
C'est clair. Et on a trouvé aussi pas mal de fossiles.
Alors, les fossiles sont finalement extrêmement intéressants parce qu'ils ont deux vocations. La première, historiquement, ils ont servi à dater les roches.
Exactement.
On a l'évolution, hein, Darwin, enfin Lamarck, puis Darwin, etc. Et donc, on sait que les espèces évoluent et se succèdent. Et on a réussi à faire un calendrier relatif. Aujourd'hui, ce calendrier est relié par un calendrier absolu grâce à la radioactivité. Donc, les fossiles servent à dater. Mais ils servent aussi à reconstituer les paysages du passé. Si, par exemple, vous trouvez une roche, quelle qu'elle soit, vous ne la connaissez pas, peu importe. Vous trouvez dedans un poisson. Ben vous dites, tiens, à cette époque-là, il y avait
des poissons.
Cette roche s'est formée ouais. dans un contexte d'eau. Il y avait de l'eau. C'est un poisson d'eau douce, d'eau salée. Et donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez avoir, par exemple, des fentes de dessiccation. Vous savez, quand vous avez une mare qui s'assèche, ça fait des figures de retrait, des polygones. Vous allez dans le tunnel de Presles, juste à côté, vous regardez au plafond, vous avez les fentes de dessiccation qui ont 240 millions d'années. Vous dites, tiens, à cette époque-là, il y avait de l'eau, je ne dis pas de l'eau douce, de l'eau salée. Pour que je dise l'un ou l'autre, il faudrait que je trouve du sel ou pas du sel, du gypse, pas du gypse, des poissons, des... Donc il y avait à cette époque-là de l'eau qui était à faible profondeur, le climat devait être chaud, elle s'évaporait.
Ouais,
vous reconstituez les paysages du passé.
Ça c'est dingue, c'est chouette.
Est-ce qu'on a des fossiles de dinosaures ici?
Oui.
Ouais. Ah oui, on peut voir un dinosaure quelque part?
Non, vous pouvez en voir une vertèbre, une magnifique vertèbre.
Ah oui, ok, je ne sais pas, c'est où ça?
Ben, dans le secteur, on va dire, quand vous allez en dessus de la Roche de Rame, dans les montagnes en dessous de la Roche de Rame, c'est là qu'on a trouvé une vertèbre qui est au Muséum National d'Histoire Naturelle, parce que nous sommes dans les chaînes de montagnes, ça ne vous a pas échappé, et surtout quand on doit monter, faire des randonnées.
Ouais, c'est ça.
Eh bien, dans les chaînes de montagnes, il y a eu des phénomènes de superposition, de collision, des plis, des failles. Bon, ça a secoué, quoi. Les objets ont reçu et les fossiles ont reçu. Donc ils sont souvent très abîmés, peu abondants, c'est vrai, et très abîmés. Et on a trouvé une magnifique vertèbre qui a été Muséum d'Histoire Naturelle, c'est le sanctuaire de la géologie française.
Et si on n'a pas trouvé le reste de la colonne vertébrale, c'est peut-être que ça a été emporté.
Ça a été dégradé. Ça a été dégradé par l'environnement, oui. Les microbes, les bactéries qui nous bouffent jusqu'à l'os, et généralement. Alors là, il y a peut-être une vertèbre qui s'est trouvée à l'abri de ces bactéries, à l'abri de l'air, où les bactéries sont plus difficiles.
Enfin, ça les préserver.
Préserver. Donc.
C'est des fossiles de quoi qu'on trouve le plus couramment?
C'est un allosaure. Ah oui, pardon, pour le dinosaure, c'est un allosaure.
D'accord.
Et les fossiles que l'on trouve ici, il y a quelques mines. Vous avez les fossiles de la période, ça c'était il y a 300 millions d'années, 320 millions d'années. Ouais. Et donc vous pouvez trouver les fossiles des empreintes de feuilles de fougères, de troncs de fougères, de tiges de fougères, parce qu'on a surtout des fossiles de ce type-là, puisque c'est à partir de ces végétaux que le charbon a été fabriqué. Mais on en a quelques empreintes, quelques traces. Après, vous en avez au cours de toutes les périodes. Mais contrairement à ce qu'on imagine, souvent on se dit les fossiles, bon, c'est beau, c'est gros, etc. Pas du tout.
Non,
dans bien des cas, c'est du plancton.
Ouais.
Le plancton, c'est des micro-organismes. Ouais, c'est bon, voilà. Et eux, il y en a de manière abondante, mais on les voit difficilement à l'œil nu.
Ouais, et on
peut en voir, mais c'est surtout avec une bonne loupe, ou alors évidemment un microscope à la loupe binoculaire. Pour les grossir 60 à 100 fois, quoi.
Moi, j'ai une question. Si, par exemple, je trouve un fossile, il m'appartient ou ça appartient directement à l'État, on va dire
Je ne sais pas. Sur le plan légal, je ne suis pas juriste, Dieu merci. Et je pense que dans la plupart des cas, vous ramassez un fossile, vous le gardez. Vous trouvez dans la nature, bon, vous ramassez un caillou. Vous le... Bon, il y a des pays où on n'a pas le droit. Mmh. Chez nous, bon, quand même, la liberté est quand même globalement.
C'est... Sauf si c'est un énorme dinosaure.
Non, mais même si c'est un petit fossile, on peut avoir le réflexe de dire, bah, tiens, il est beau, je vais le signaler. Par exemple, si vous êtes dans le parc des Écrins, vous le signalez au parc des Écrins. Si vous êtes dans, en dehors du parc des Écrins, il y a le parc du Kéra. Vous pouvez avoir des associations, des structures. Moi, si quelqu'un me porte un fossile, si on me dit là où il a été trouvé, je peux, en regardant les notices des cartes géologiques, à peu près dire ce que c'est.
Quel âge.
Et puis, si c'est intéressant, s'il est très très beau, on peut faire appel, si la personne qui l'a trouvé le veut bien, à des géologues qui vont dire, ben, il est courant, gardez-le. Ou alors, ah mon Dieu, c'est là, on va l'appeler Tartampion, puisque vous appelez Tartampion, c'est vous qui l'avez trouvé.
Ça sert à faire avancer un peu l'histoire. De...
C'est la gloire, regardez la, gloire. La grotte Chauvet.
C'est vrai.
Oh mon Dieu, mec qui a trouvé ça.
Ah, c'est incroyable.
Ah, ouais.
Incroyable, ouais. Moi, j'habitais en Ardèche à l'époque.
Ah ben, c'est un bel endroit. Oui, bon, pour cette histoire, donc, je peux la décliner en une minute. Donc, il y a toute une période où on a préparé l'océan, une période où l'océan a vécu, une période où l'océan a disparu, et à ce moment-là, se sont formées les Alpes par empilement des deux continents qui bordaient l'ancien océan. Voilà.
Est-ce que les Alpes, elles ont quel âge à peu près par rapport aux Pyrénées qui sont beaucoup, beaucoup plus anciennes ?
Les Alpes ont véritablement émergé, les reliefs ont émergé à partir du moment où s'est fait cet empilement. Donc dans la dernière période, entre 60 millions d'années aujourd'hui, avec une érection des montagnes, des reliefs qui datent de quelques dizaines de millions d'années seulement.
D'accord, voilà. Oui, ils sont jeunes alors. Ouais.
Oui, les Alpes sont jeunes, les Alpes sont en pleine construction. On imagine un intervieweur comme vous deux, ou des intervieweurs comme vous, il y a dans un certain nombre de millions d'années, ils diront au pseudo-géologue qui est en face d'eux, comme moi, ils ont eu de la chance, ils ont vu les Alpes monter. Oui, on ne voit rien du tout, parce que ça monte à une vitesse géologique. Voilà.
Et est-ce que ça va continuer de monter ? Qu'est-ce qui peut arriver maintenant ?
Ce qui peut arriver maintenant, c'est tout dépend d'un océan. C'est l'océan Atlantique.
Ouais,
l'océan Atlantique, en s'ouvrant, il pousse l'Afrique. Or, l'Afrique, elle a une petite dent qui est l'Italie, qui est un lambeau d'Afrique. Et si vous avez... L'océan Atlantique qui continue de s'ouvrir, il pousse l'Afrique, qui pousse l'Italie, qui va indenter l'Europe, enfin la France, pas que la France, l'Autriche, la Suisse, etc. Et ça fait effectivement un moteur permanent de surélection alpine.
D'accord.
Si l'océan arrête de fonctionner, ça s'arrête. À ce moment-là, on va dégrader tout ça, la vitesse grand V, l'érosion va prendre le pas sur la surélection. À l'heure actuelle, c'est la surélection qui prend le pas.
D'accord.
Moi, j'ai une petite question, c'est par rapport à un phénomène qui est super beau. Je sais pas si tu connais, Susanna, c'est les demoiselles coiffées. Quand on va au lac de Savines, par exemple, je sais qu'il y en a d'autres dans d'autres endroits, mais pour parler d'un endroit qui est pas si loin, et c'est donc c'est des espèces de pics de roches comme ça. Et j'aimerais bien que Raymond nous explique comment ça se forme.
Alors, c'est un phénomène qui est à une échelle quasi humaine. Parce que ce dont nous avons parlé, nous étions dans les millions d'années, on était à l'échelle des temps géologiques. Parce que c'est une notion extrêmement importante que celle du temps en géologie, l'échelle des temps et l'échelle des raisonnements que l'on va appliquer pour les objets géologiques. Bon, on est là dans un temps qui est de l'ordre de des milliers ou des dizaines de milliers d'années. Tout simplement parce que pour ériger une demoiselle coiffée, ou une cheminée de fée, comme on les appelle,
c'est moi.
Il faut... Susanna est adorable.
Pardon.
C'est une demoiselle coiffée. D'un casque. Et donc, c'est, vous savez, ce qu'on appelle des moraines, parce qu'il y a eu des glaciers, et les moraines charrient et proviennent du charriage par les glaciers de matériaux de toute taille. Il y a un mélange de l'argile, des sables, des graviers, des blocs, des gros blocs. Tout ça, lorsque le glacier se retire, ça fait une moraine frontale, latérale, dessous, là, je ne sais plus comment on dit, de fond. Et donc, après l'érosion actuelle, quand il n'y a plus les glaciers, ça va être les agents de l'érosion actuelle. Non, les agents que nous connaissons. Et entre autres, la pluie. Et la pluie va tomber sur ces moraines et va les dégrader.
Ouais,
simplement, lorsque la pluie tombe, si elle tombe sur un bloc, parce qu'il y a des blocs qui peuvent faire quelques mètres de diamètre, eh bien, le sable, les graviers qui sont dessous, l'argile qui sont dessous, sont protégés. Donc, là où c'est pas protégé, ça dégrade, ça érode, et là où c'est protégé, ben, il y a une colonne qui monte. Alors, j'aime bien, cette colonne monte, elle est faite de matériaux qui est un matériel qui peut se dégrader aussi. Ben oui, bien sûr, mais il y a un phénomène qui est intéressant, c'est un phénomène dit de capillarité. Vous protégez de l'eau, mais il y a quand même de l'eau qui va en surface, qui va à côté, et qui va ensuite remonter. Et en remontant, cette eau, ben, elle va arriver au contact du bloc, cette fois-ci. Elle monte par-dessous, elle ne tombe pas par-dessus, et elle va déposer du matériel qu'elle a dissous. Et ça fait un ciment. Et vous avez une colonne de béton qui supporte ce gros bloc. Ouais, qui... Petit à petit. Ouais. Voilà. Ce gros bloc, il est appelé à disparaître parce qu'à un moment donné, le chapeau, il tombe.
D'accord.
Ah, ouais. D'accord. Ouais. Du coup, c'est les demoiselles coiffées.
Coiffées.
Puisque c'est ce voilà. bloc qui fait. C'est de la roche plus solide, en fait.
Ah oui, c'est la roche plus solide. Vous voyez le magnifique fort de Mondofay. Mm-hmm. Hein, ben, vous avez en dessous un énorme matériau qui est un matériau fait de blocs qui sont soudés entre eux par un ciment. Ben, c'est pas exactement la même chose, mais c'est aussi solide que ça.
Et super. Raymond, je vous propose qu'on écoute avec vos conseils un petit morceau que vous avez choisi, un morceau de Jacques Brel. Et c'est pour montrer aussi que vous avez une pointe d'humour. On a choisi ensemble le plat pays, puisqu'on parle de beaucoup de relief. Et on se retrouve juste après pour parler de votre association dont vous êtes le président, donc le Centre Briançonnais de géologie alpine. Comme ça, vous nous expliquerez un petit peu mieux tout ce qui s'y passe. Donc on se retrouve juste après et donc on vous laisse avec Jacques Brel, le plat pays, à tout à l'heure.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'est, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir le plat pays qui est le mien avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot quand les fils de novembre nous reviennent en mai quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire quand le vent est au blé quand le vent est au sud écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
Et voilà, c'était Jacques Brel avec le plat pays. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du plat pays.
Quand même, juste une remarque.
Dites-moi Raymond.
C'est une chanson qui a du relief.
C'est beau. C'est une chanson qui a du relief. Et oui, parce qu'aujourd'hui on accueille donc Raymond, si vous venez juste de nous rejoindre, monsieur Raymond Sirio, qui est président du centre Briançonnais de géologie alpine, qui est venu nous parler donc de géologie et de son association aussi dont il est le président. Et donc Susanna, tu avais une question sur les glaciers.
Oui, on a des glaciers ici. C'est quoi l'histoire d'un glacier?
Ben, l'histoire d'un glacier, je pense que vous l'imaginez bien, c'est lié au climat, un climat qui est froid, qui a été beaucoup plus froid à certaines époques et beaucoup plus chaud à d'autres, puisqu'il y a quand même des périodes où la Terre, on peut dire qu'on parlait de boule de neige, c'est-à-dire qu'il y avait de la neige, de la glace partout.
D'accord.
Aucun endroit n'échappait à ça, donc c'était beaucoup plus froid. Puis il y a des moments où il n'y a pas eu de glacier du tout. C'était plus chaud. Donc ce sont des variations climatiques qui commandent la présence de glaciers. Et dans les Alpes, à l'heure actuelle, ils sont en régression, mais ils ont été extrêmement importants. Ils descendaient au moins jusqu'à Sisteron, à Lyon. Donc c'était...
On peut
imaginer que l'ensemble de ce qu'on appelle les Alpes aujourd'hui, mais ceci dans le dernier million d'années, était entièrement en glacier. Ils sortaient quelques sommets, c'est tout. Mais on avait peut-être, à Briançon, on avait peut-être 2000 mètres de glace.
Wow, donc, ça va être beau à voir ça.
Oui, mais il fallait quand même une doudoune.
Oui,
non, voilà, ce sont les glaciers qui font que, en fonction, les glaciers sont liés aux variations climatiques. Donc, ils avancent, ils reculent, plus ou moins vite. Hein, on ne va pas parler de réchauffement climatique.
Ouais,
c'est un sujet sérieux qui mérite que des spécialistes vous en parlent.
Je ne suis pas un spécialiste. Notre matinale.
Voilà.
D'accord, ok, Philippe.
Donc vous êtes le président, Raymond, du centre Briançonnais de géologie alpine qui se situe donc à la MJC au 3e étage. Jusqu'à là, je ne me trompe pas?
Non, mais dans un mois et demi, vous vous tromperez.
Voilà, vous allez nous raconter tout ça, puisque justement, vous allez nous expliquer comment fonctionne votre association, tout ce qui s'y passe, et votre déménagement qui est bientôt prévu. Donc,
je vais essayer de brosser quand même un tableau qui est forcément un tableau historique au départ, dans le sens où ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'héritage de 35 ans de travail. Donc on ne peut pas dire que ça existe, c'est un coup de baguette magique, on a dit tiens, on va faire ça. Non, et tout commence par mon métier, prof de SVT, sciences de la vie et de la terre. Donc en 1983, le ministère a proposé des nouveaux programmes d'enseignement de lycée. Bon. Dans ces nouveaux programmes, ils étaient modernes. Jusque-là, on faisait une géologie de bonne qualité, mais c'était une géologie un petit peu en retard par rapport à la science. La tectonique des plaques, notion fondamentale aujourd'hui, que citent les journalistes quand ils sont amenés à parler, par exemple, séisme et volcanisme comme au Cotopaxi, eh bien, la tectonique des plaques, elle est née dans les années 60-70. Elle est elle-même issue d'un météorologue allemand, Wegener, qui, en 1912, avait proposé la dérive des continents. Après 50 ans d'obscurantisme scientifique, il n'y a pas que le religieux, il y a l'obscurantisme scientifique, eh bien, les travaux accumulés, notamment dans les océans, etc., on a pondu la tectonique des plaques. Et dans l'enseignement, dans l'une des universités, il a fallu une petite dizaine d'années pour que ça irrigue les universités, mais il en a fallu un peu plus pour que ça rentre dans les lycées, ce qui est tout à fait légitime, parce qu'il faut former les profs avant de les mettre à enseigner. Et donc, 83, tectonique des plaques. Bon. Moi, je connaissais ça, mais j'avais pas étudié. Moi, j'ai fait la géologie avant que la tectonique des plaques n'apparaisse.
Ouais.
Moi, j'ai fait géologie à l'université en 64.
Hein? Ah ouais.
Et par contre, la tectonique des plaques, elle est sortie en 68, 70, etc.
Ah oui, je savais pas
donc,
ça.
Moi, j'ai dit, je vais me recycler. Je lis quand même les revues. Et donc là, je me suis rendu compte que le Briançonnais, les Alpes occidentales franco-italiennes, le Briançonnais, c'est-à-dire la Haute-Durance, était un lieu magique. Parce que dès les années 60, Marcel Lemoine, avec Jacques de Belmas, avait produit un film qui s'appelait « Du Pelvoux au Viseau ». Oui, c'est bien chez nous ça, « Du Pelvoux au Viseau ». Même si le Viseau est en Italie, c'est chez nous, quoi, on est dans notre monde. Et ce film « Du Pelvoux au Viseau » visait à expliquer un petit peu le fonctionnement... La genèse des reliefs alpins à partir des données de la région.
D'accord.
Alors, avec une vision qui était une vision anti-tectonique des plaques. Marcel Lemoine, d'ailleurs, son rêve, ça a toujours été de refaire ce film. Il n'a jamais réussi. Jacques de Belmas a refait un film pour adapter un petit peu, mais il n'avait pas les moyens financiers de le faire véritablement, de refaire un film de A à Z. Donc, la région, j'ai dit, mais revoyons le film Pelle Vauviso, mais c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, l'idée de base, c'est que s'ils avaient réussi à construire une histoire de la jeunesse des Alpes avec les objets du Pelvoux-Aviso, pourquoi, dans le cas de la tectonique des plaques, on ne pouvait pas faire la même chose? Et j'ai travaillé avec des géologues, j'avais fait des tas de sorties avec des géologues.
Et ça, c'est votre idée, alors, de développer comme ça?
Ben oui, de dire, ben, finalement, je vais reprendre ce que faisait Marcel Lemoine. J'ai pris contact avec Marcel Lemoine en 88, et alors là, ça a été une explosion, parce que je me suis rendu compte, et dès les années 83, j'ai commencé, puisqu'il fallait bien enseigner, mais je le faisais avec des géologues qui me donnaient des informations, pour autant que j'ai le temps de les voir, de les connaître, et de travailler un peu, de comprendre, parce qu'il faut quand même comprendre avant de diffuser un enseignement. Donc, je me suis rendu compte qu'on avait ici, dans notre microcosme, là, à 10 km d'un côté, 10 km de l'autre, autour de Briançon, on avait tous les objets susceptibles de raconter l'histoire.
Qui est fabuleux quand même. Hein.
Et donc, c'est là que j'ai créé, avec des collègues de Sciences de la Vie et de la Terre, avec Raymond Lestournel et puis Claude Rémy, on a créé une association qui ensuite a éclaté en trois associations. Une association qui s'est beaucoup occupée des mines, c'était Raymond Lestournel. Une association un peu généraliste, mais avec une tendance sur l'écologie, avec Claude Rémy, Annika Montana. Pour Lestournel, c'est la Société géologique et minière de Briançonnet. Hein. Et puis moi, j'ai créé le Centre Briançonnet de géologie alpine après une phase... Un petit épisode. Et donc, ça a fonctionné rapidement sur cette base-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère... J'ai proposé au ministère de faire des universités d'été, des stages, des universités d'été, des stages au niveau académique, des universités d'été au plan national, avec des géologues, dont Marcel Lemoine, qui était vraiment l'homme de la situation. On en reparlera un petit peu. Eh bien, et on a développé des itinéraires de terrain, des exploitations de documents réel, vous voyez un objet, vous le décrivez et vous l'exploitez en fonction des connaissances que l'on a de la science. Et c'est-à-dire, ce que l'on, si le microscope nous dit qu'il y a ça qu'on ne connaissait pas avant, ben il faut s'en sortir.
Donc, c'est un peu comme les médecins, on ramène
des indices et on fait un diagnostic. Ouais, hein, ouais. Je comparerais plus, fascinant. Même si c'est... Ouais. C'est un peu plus triste parce que à des détectives qui doivent reconstituer ce qui s'est passé. Hein. Alors, je dis... plus triste parce que c'est généralement un acte qui est un peu délictueux. Et puis vous récoltez ces indices, vous les exploitez et vous racontez une histoire. Et ça, c'est fabuleux. Est-ce parce que la géologie est devenue...
notre terre.
Mais
en
oui,
plus.
Mais c'est la géologie, elle est devenue animée pour les enfants. C'était plus des cailloux qui me disent « je suis blanc, je suis noir, machin ». Non, c'est des cailloux qui me disent « ah, mais moi, je suis né à telle, telle époque ». Et puis, vous savez, quand je suis né,
et
avant
moi,
de naître, j'étais
aussi,
un magma.
Hein. Ouais. Ouais.
Et puis après, ah ben oui, mais je suis né à 168 millions d'années, mais j'ai vieilli depuis. Mais figurez-vous qu'à un moment donné, moi, j'ai bu de l'eau. Regardez, j'ai changé. Et puis, à un moment donné, je suis descendu à 40 km. Et puis, je suis remonté. Ah bon? Et puis, je suis où? Ben, je suis dans le torrent, je suis dans le Guil. Vous avez un caillou qui vous raconte ça. Non, mais au-delà de... C'est sérieux, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc, on avait tout. Donc, comment ne pas créer une... Enfin, dans le cadre des associations, puis après, dans l'association indépendante par rapport aux deux autres, du Centre Briançonnet de géologie alpine, on a commencé à sortir avec des profs qu'on a formés. Et puis les profs ont dit je peux venir avec mes élèves. J'ai dit oui, mais c'est samedi ou dimanche, parce que moi je travaillais la semaine. J'étais prof à l'époque, prof en activité. Et je faisais cours quand même, au petit Briançonnet, oui.
Vous organisez aussi des sorties découvertes pour tout le public.
Oui.
Ok, c'est la fin de cet été, mais il reste toujours des choses à faire.
Oui, donc je vais quand même faire la soudure entre ce que je disais et la réponse à la question. C'est tout simplement pour dire que les profs, ils m'ont emmené leurs élèves. Mm-hmm. J'ai pris tous mes week-ends, j'ai pris des demi-journées de ci, de là, quand c'était possible. Et puis à un moment donné, j'ai dit, il faut que je trouve des collaborateurs. Donc j'ai recruté des accompagnateurs en montagne qui sont, légalement en situation de mener des gens en montagne, parce qu'on mène quand même au chenaillet, c'est pas la montagne du siècle.
Exactement,
mais
ouais,
bon, il y a quand même des responsabilités, des règles à respecter. Et donc petit à petit, on a comme ça grossi. Et aujourd'hui, en gros, L'année dernière, il y a 153 lycées, 380 classes qui ont alimenté 900 journées de travail sur le terrain. On a fait 900 journées de terrain.
Super.
Avec 30 accompagnateurs.
Excellent.
Voilà, ça c'est aussi sur le du 15 avril au 15 juin et puis du 2 septembre parce qu'il y en a qui arrivent à la pré-rentrée jusqu'aux vacances de Toussaint puis qu'après le climat nous empêche d'en faire.
Pour les élèves, c'est du concret au moins.
Ah ben c'est-à-dire ils partent du réel.
C'est pas que de la théorie,
du réel. Ils partent de l'objet parce que ça vous êtes prof, voilà. Vous ouvrez les tiroirs, vous sortez les cailloux que vous avez choisis, vous prenez les diapos, vous faites les photos que vous avez faites et donc l'élève est contraint par un travail que vous avez réalisé. Mais c'est un travail qui est intéressant, parce que le prof, il ne peut pas venir systématiquement, mais c'est un travail qui est quand même un peu biaisé. Vous avez fait la partie du travail. Tandis que vous le mettez dans un panorama, qui se débrouille ? Il est là pour ça. Alors vous allez dire, il va se tromper, t'es un sadique. Mais non, je ne suis pas un sadique. Il faut bien se tromper pour apprendre. Donc, ils apprennent à faire un panorama. Après, ils sélectionnent les objets. Ils vont sur un objet, c'est-à-dire sur une roche, ce qu'ils font avec le panorama. Parce que une roche, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du vert, il y a du gris. Il faut être capable de le décrire. Mais ça, c'est à la portée d'un enfant de CE2. Ils font des sciences en partir du CE2. Donc c'est à leur portée. Après l'exploitation, vous leur dites, ben, le noir, c'est tel minéral. Les noms des minéraux, c'est gentil, mais ça éblouit, mais ça dit rien. Après, vous dites, oui, mais ce minéral, il veut dire que. Et ainsi de suite, vous construisez votre histoire. Et ça, c'est très apprécié parce qu'on a des gens qui viennent faire des stages depuis 20 ans.
Ah ouais.
Alors eux, les profs, ils viennent parce qu'ils trouvent que c'est intéressant. Mais les élèves, c'est toujours des nouveaux élèves.
Ouais, d'accord.
J'ai vu sur votre site que vous faites des sorties de stages professeur SVT et des sorties scolaires, des stages scolaires. C'est quoi la différence entre les deux?
Vous montrez à un prof ce que vous pourrez montrer à ses élèves quand il viendra.
D'accord.
Ou alors il se forme, lui. Ben, il se forme.
C'est que des profs qui viennent alors de SVT.
Dans le cadre de nos stages, ils viennent et c'est des profs.
D'accord.
Et de toute la France loin encore.
Non. Alors on a la plupart des lycées français européens viennent. On a une dizaine de Londres, Vienne, Milan.
Parce que nous on n'a pas beaucoup de montagnes.
Madrid, Lisbonne. On en a des Africains. Hein, on a le lycée d'Alger qui est venu. On a Ouagadougou. Là où il y a des lycées français, il y a des profs qui amènent leurs élèves. C'est extraordinaire. C'est fabuleux que les gens viennent ici. Bon, ça fait connaître notre région. Ça leur fait connaître aussi la géologie à travers des objets réels. Ce que les élèves disent souvent, je prends ça comme un compliment, c'est que mais ça c'est vrai quoi. Oui, c'est pas une image, c'est pas sorti d'un tiroir, c'est pas un caillou, c'est un caillou extrait d'un paysage.
Oui, exactement.
Voilà. Après, c'est notre job, effectivement, et on a forcément, et je rejoins votre question, mais naturellement, dès le début, dans les années 90, j'ai été sollicité, mais je me suis sollicité en disant, mais on va pouvoir amener des... Et j'ai fait des sorties pour une personne.
D'accord.
Aujourd'hui, on fait des sorties pour pas beaucoup de personnes. Il y a du monde quand c'est gratuit. Parce qu'il faut parler aussi économie.
Je veux dire,
on ne peut pas vivre seulement du bénévolat. Aujourd'hui, on est 4 emplois. On a 6 emplois et 6 équivalents temps plein avec les accompagnateurs. Donc, on pèse 10 emplois quasiment directs. Et puis, tous les effets induits, parce que 900 journées de classe ici, ça veut dire des dizaines de milliers de nuitées chez les hébergeurs qui, de ce fait, économiquement, ça pèse en gros entre 20 et 30 emplois.
Mais vos prix, exemple, pour les sorties découvertes, c'est pas trop cher. C'est 25 euros, non ?
Oui, pour la journée.
Avec un accompagnateur.
On ne boucle pas le budget. On est un peu en déficit. Mais je reçois des subventions. Donc c'est quand même bien le moins qu'on renvoie l'ascenseur à ce niveau-là. Bon, mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, du fait de la création du Géoparc il y a 2 ans, un dossier, ça ferait toute une émission, mais vous avez un géoparc avec des sites aménagés qui ont été financés par l'Europe, par les communautés de communes, par les communes, etc. Bon, ça, de ce fait-là, nous, on a dit, on ne va pas faire des choses et puis ne pas les promouvoir. On a dit aux communes, si vous voulez, pendant qu'on avait le financement géoparc, on a fait des sorties en disant, voilà, c'était gratuit, on se mettait à disposition. Et puis le géoparc n'alimente plus notre système de fonctionnement, quoi.
D'accord.
Donc on continue, mais on a sollicité les communautés de communes, Hein. La communauté de communes Guérasse a répondu présent, hein, et les autres ont dit, oui, mais voyez, avec les communes directement, on le fait. Et donc, pas mal de sorties. Le parc des Écrins, il nous a sollicités, on fait des sorties, mais ces sorties sont financées. Et on dit aux gens, c'est pas gratuit.
D'accord.
C'est offert par le Parc des Écrins, la ville de Seillac, la communauté de communes du Quéra. Il faut rendre à César ce qui est à César. Nous, on fait le boulot, mais ils nous permettent de le faire.
Il vous reste encore quelques sorties avant la fin de la saison d'été. Donc, je propose que vous nous donniez votre site. Sur, comme ça, les gens pourront aller directement voir s'ils veulent réserver. C'est le plus simple.
cbga.net.
Vous dites
cbga.net.
Voilà, tout simplement. cbga.net.
Ils mettent ça sur Google, automatiquement, ça les oriente. Et ils
voilà, vont,
et
comme ça, ils peuvent voir les sorties qui restent à venir.
Voilà. Exactement, pour cet été et après quand même. On va finir avec un sujet qui est très important pour nous en ce moment. C'est le problème du tunnel du Chambon, un grave problème qui nous concerne tous. Quels sont vos points de vue sur la situation actuelle?
Bien, comme je vous le disais, je ne suis pas géologue. J'ai accès, j'ai un réseau d'amis, géologues, etc. Je regarde la carte. Je regarde les profils que font, c'est-à-dire ils font une représentation en profondeur.
Ouais.
Il y a le socle, les roches du socle, les vieilles roches qui ont des 300, 400, 500, 800 millions d'années. Bon, c'est le socle, c'est les grandes montagnes, le Pelvoux, les Écrins, etc.
Ouais.
Et puis ce socle, il y a eu à une époque des bassins qui reliaient les grands futurs sommets. Ces bassins ont été alimentés avec un matériel de type argile et un petit peu calcaire, ce qu'on appelle des marnes. Bon. Et ça, c'est aux alentours de 190, 170 millions d'années pour ce qui nous concerne. Et puis, l'histoire des Alpes plus récentes, bon, les sommets ont été érigés, et comme on était dans un système de compression, de serrage, vous disiez, l'Afrique qui pousse, bon, donc on serre, ces roches se sont transformées en ce qu'on appelle des schistes. Et là, c'est les schistes noirs qui sont des ardoises. Et ça, c'est fragile. Surtout, beaucoup plus fragile que le socle. Donc vous avez le socle et vous avez ces schistes-là. Donc là où il y a contact entre deux matériaux de nature différente, il y a faiblesse, il y a fragilité possible.
Donc c'était prévisible, on peut dire.
Mais oui, mais...
Mais on sait jamais quand.
Voilà, c'est comme le Cotopaxi qui vient de péter. Il a pété, c'était prévisible, oui. En disant, ben oui, nous aussi, ça peut péter chez nous. Pas le Chenaillé, parce que c'est un volcan qui n'a pas de racines. Mais je veux dire qu'on a des séismes d'endurance, ça peut péter. Et on ne peut pas prévoir.
Et quelle est la solution alors?
Mais la solution, je crois que tous des élus ou à la population, tout le monde là, on sait très bien que c'est une solution qui consiste à tout refaire.
Tout refaire.
Mais ça, c'est une solution qui n'est pas dans les tuyaux pour le moment. Donc il y a pour le moment un projet... de faire quelque chose qui permettra de sauver peut-être l'hiver, quoi. Mais sur le long terme, c'est soit refaire le tunnel au même endroit, ça semble inconcevable, soit creuser à un endroit où on est sûr que ça sera plus solide que cette jonction entre le socle dur, les granites, les gneiss, et puis les sédiments qui sont collés contre. Donc ça suppose probablement un nouveau tunnel, ou alors un ouvrage d'art.
Combien de temps ça peut prendre pour tomber? Parce que tout le monde attend.
Voilà, mais il en est tombé la moitié, ou les trois quarts, il en reste encore.
Ouais,
bon, alors beaucoup disent, on va mettre un pétard. Mais le pétard, pourquoi ils ne le mettent pas? Parce qu'ils se disent, ça va peut-être faire tomber ce qui doit tomber, mais ça va peut-être déstabiliser d'autres endroits.
Et c'est vrai, ça?
Et c'est possible.
Ouais, okay.
Comment le dire?
Donc, c'est ça, parce que c'est pas impossible. Là, ils attendent qu'un bloc tombe, mais en attendant, il y a aussi autre chose qui a bougé sur le côté. Le reste de la route, ça a bougé aussi. Enfin, vu que c'est toute la montagne, c'est pas localisé.
Vous connaissez le Lautaret? Vous descendez du Lautaret vers Villard d'Arène, la Grave. Vous voyez la route, elle va descendre, elle fait ça.
Oui.
Mais je veux dire, ils pourront bétonner, ils pourront passer du goudron, refaire il y aura toujours ça. Pourquoi? Parce que la montagne, elle pousse. Elle pousse. C'est-à-dire, elle a un poids. Donc elle pousse vers le bas. Et ça déforme.
Rien n'est plus fort que la nature.
En parlant du tunnel de Chambon, juste un petit mot. Demain, c'est journée solidarité avec la Grave. C'est toute la journée. Il y a plein d'animations. La Grave est toute ouverte, comme on dit, tous les jours. Tous les commerçants, ils sont là pour vous accueillir demain. So, n'hésitez pas de faire un tour. Il y a une navette gratuite à partir de 10h. Et vous pouvez retourner même avec la navette vers 16h. Voilà.
En plus, il va faire super beau. Alors, il y aura plein plein d'animations pour les enfants, donc n'hésitez pas à aller en famille, à les soutenir. En plus, voilà, donc là, c'est vraiment dépenser son argent.
Absolument.
Pour une bonne cause. Car c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont,
Aux abois.
Qui sont aux abois. Et c'est pas fini. Hein, parce
et c'est
que,
pas fini parce que, donc, comme je vous le disais, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça exactement. Coûtera beaucoup d'argent pour solutionner exactement. Le problème. Et ça, c'est la solidarité nationale. Ce que je sais, c'est que depuis des dizaines d'années, et c'est tout à fait normal, on assure la continuité territoriale avec la Corse, par exemple, qui fait partie de notre pays. Bon, et finalement, il y a des financements pour ça. Je veux dire, et la continuité territoriale entre l'Isère et les Hautes-Alpes n'est plus assurée. Ouais. Donc la nation doit être à la hauteur de ces enjeux pour que les territoires, même ceux qui posent des problèmes en termes de financement, ben, ne soient pas oubliés.
Exactement. On
va faire le Lyon-Turin.
Exactement, enfin, le tunnel Lyon-Turin.
On ne peut pas laisser mourir. Attendez, la grave.
Exactement.
C'est, et la grave, ce n'est pas que les vallons de la Meije. La grave, c'est surtout des gens. Qui ouais, vivent là.
Exactement, on est tous d'accord. Tous à la grave demain pour les journées
voilà,
solidarité.
Voilà, tout à fait. Donc demain à la grave, une journée de solidarité. À savoir qu'à la fin du mois aussi, il y a un concert exceptionnel avec Emma Domas qui sera là et d'autres artistes en concert solidarité.
C'est le 29.
Voilà, il nous reste plus Raymond Sirieux, donc à vous remercier chaleureusement d'avoir été avec nous. On aurait envie de vous écouter encore des heures.
D'autres.
Non mais vous savez ce qu'il vous reste à faire.
De vous réinviter.
Exactement, vous êtes bienvenue quand vous voulez.
Merci beaucoup de votre accueil.
Merci beaucoup.
D'accord.
Je suis très touché.
Allez, bonne journée à tous.
Bonne journée tout le monde.
Bonne journée Susanna. Bonne journée à tous. Encore merci Raymond. Et bonne journée.
Merci à vous.
Bye bye.